Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous choisissez notre podcast. Je suis sur les Champs-Élysées, où se trouvent les bureaux parisiens de la chaîne américaine CNN. J'ai rendez-vous avec Cyril Vanier. Pendant 10 ans, il a été grand reporter, présentateur ou encore chroniqueur international sur France 24. C'est là qu'on s'est côtoyé jusqu'à ce qu'il rejoigne CNN en 2016. Cyril Vanier a travaillé au siège de CNN à Atlanta, mais ces derniers temps, il co-présente depuis Londres une tranche d'information quotidienne sur CNN intitulée « Your World Today ». Je me suis dit qu'il serait à même de nous expliquer comment fonctionne cette chaîne d'information qui vient de fêter ses 40 ans le 1er juin dernier et revendique desservir 400 millions de foyers et de chambres d'hôtel dans le monde. J'aimerais aussi qu'il m'aide à comprendre comment elle se positionne face à Donald Trump alors que le président américain qualifie souvent CNN de « fake news ». Salut Cyril.
Salut Steven.
Que fais-tu actuellement au bureau parisien de CNN, ici sur les Champs-Élysées ?
Alors, je suis un réfugié du coronavirus parce que normalement, je présente une tranche d'info qui commence à minuit heure française. Et comme la rédaction de Londres a été fermée pendant plusieurs mois pour cause de Covid, je suis ici là où je peux être le plus utile, c'est-à-dire en renfort à la correspondance en France.
Mais en temps normal, tu es basé à Londres.
Oui, j'étais à Atlanta pendant 3 ans. Je présentais des journaux de nuit, le week-end. Et maintenant, je présente une nouvelle émission qu'on a lancée quelques temps avant le Covid et qui a dû être suspendue pendant plusieurs mois, au moins jusqu'en septembre.
Revenons, ou plutôt parlons, de l'histoire de CNN qui le 1er juin a fêté ses 40 ans. Cable News Network a été lancé le 1er juin 1980. On peut dire en gros que l'info télé en continu a 40 ans et au début c'était le pari d'un homme, Ted Turner, en 1980, année de ta naissance.
Oui, j'étais même pas né quand il a lancé ça. C'est dingue quand on y réfléchit, parce que aujourd'hui, les chaînes info, tout le monde y est habitué, c'est normal, tout le monde en consomme en partie, de temps en temps, à sa manière, mais il faut penser qu'à 40 ans, ça n'imaginait pas, et que faire de l'info en continu, ça semblait fou à l'époque, parce qu'on se disait, ben non, c'est une heure par jour, une demi-heure par jour, franchement, qui va vouloir consommer ça H24? Et c'était pourtant le pari de Ted Turner, qui a été visionnaire sur plusieurs points, dont celui-là, et il a eu raison. Et du coup, aujourd'hui, il a sa place dans l'histoire grâce à ça. Et donc, les chaînes en continu, il y a eu d'abord CNN, et puis ensuite, elles ont fait des petits, elles ont fait des émules, il y en a beaucoup aujourd'hui.
Citons quelques moments clés dans l'histoire, justement, de CNN. En mars 1980, une tentative d'assassinat de Reagan à Washington, CNN était là. En 1986, les images terribles de l'explosion au décollage de la navette Challenger. En 1991, la couverture en direct de l'intérieur depuis Bagdad de la guerre du Golfe. Toi, quel est le moment qui t'a marqué, les images de CNN, les premières dont tu te souviens en tant que jeune journaliste ?
Ben, moi, comme beaucoup de gens, c'était la guerre du Golfe, donc les années 90, mais indirectement, parce que mon père regardait ça. Et je le voyais ému à la télé, je le voyais passionné par ce qu'il voyait, et je comprenais que le monde... Il se passait quelque chose dans le monde, un pan d'histoire qui se déroulait. Et si c'était suffisamment intéressant pour que mon père soit scotché à la télé et qu'il en ressente des émotions, alors qu'il ne regardait pas un film, il regardait bien les actualités, je me suis dit qu'il se tramait vraiment quelque chose d'important. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours admiré cette chaîne, comme d'autres, mais en particulier cette chaîne, et du coup voulu en faire partie.
Petite parenthèse, tu as une double nationalité, oui. Tu es français et ta deuxième nationalité, c'est Saint-Christophe et Niévès, c'est cela ?
Ah, très bien, je vois que tu as fait tes devoirs. Ouais, je suis donc quiticien. On n'est pas beaucoup, c'est une toute petite île aux Antilles. Mon père est né là-bas, donc pour aller vite, je dis qu'il est britannique, mais en fait, pour être précis, il est effectivement quiticien de Saint-Christophe et Nevis.
Et c'est de là que tu tiens ton anglais parfait ?
Oui, j'ai grandi bilingue, ma mère française, mon père britannique, donc je parlais les deux langues.
Alors tu le disais, quand CNN est apparu, l'idée c'était de diffuser de partout vers le monde entier et en direct, c'était nouveau. Qu'est-ce qui reste de tout cela en 2020? Le traitement de l'info façon CNN, c'est toujours ça? La promesse de départ est toujours la même?
Ben oui, parce que finalement, la recette n'a pas beaucoup changé. C'est être là où ça se passe, quand ça se passe. Et ça, tout le monde l'applique. CNN a été le premier à le faire. Ça a été évidemment dupliqué. Maintenant, CNN a de nombreux concurrents. Mais la promesse n'a pas changé. Ensuite, c'est dans le traitement. C'est quels sont les choix éditoriaux qu'on fait, quelles sont les histoires qui sont dignes d'être couvertes avant, pendant, après, des heures durant, et quelles sont les histoires qui sont reléguées à la deuxième partie du journal. Donc il y a des choix éditoriaux qui sont très importants et qui distinguent les chaînes entre elles, et il y a, j'ose espérer, la qualité des présentateurs et correspondants qui font l'antenne aussi.
Un immense réseau de correspondants d'ailleurs, c'est-à-dire que CNN est en mesure sur un sujet de solliciter 25 correspondants pour des directs dans une seule et même journée par exemple.
Non seulement CNN est en mesure de le faire, et effectivement les effectifs de CNN sont très importants, on peut même dire qu'ils sont pléthoriques, mais CNN a envie de le faire, a vocation à mettre beaucoup de gens sur une histoire. Dans le système très concurrentiel des médias aujourd'hui, dans le paysage très concurrentiel des médias, CNN a décidé qu'il valait mieux être bon, très bon, sur moins d'histoires, plutôt que de vouloir tout couvrir et s'essouffler, en fait, à envoyer ses correspondants partout. Et donc, CNN a décidé, il y a plusieurs années déjà, de mettre le paquet sur les histoires qui comptent pour CNN. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement plusieurs correspondants à chaque fois qui sont disponibles, H24, tôt le matin, tard le soir, et qu'on peut multiplier les angles sur un même sujet et offrir une offre éditoriale très riche, très robuste sur les sujets qu'on traite.
Parlons de l'actualité récente, avec les émeutes et la vague de protestation qui a suivi aux États-Unis la mort de George Floyd au cours d'une arrestation à Minneapolis, dans le Minnesota. CNN a couvert et couvre encore abondamment ces événements depuis la rue, à hauteur d'hommes et de femmes. Et il y a eu une image qui a fait notamment le tour du monde, c'est l'arrestation d'un collègue à toi, Omar Jiménez. Il était en direct et des policiers l'ont menotté. Précisons d'ailleurs, c'est un journaliste noir américain.
Ouais, écoute, c'est dingue, franchement c'est révoltant, ça devrait pas arriver. On a tous couvert des manifs, moi, toi, on sait ce que c'est couvrir une manif, il y a des risques inhérents. Mais là, on a une situation où ce journaliste qui n'était pas menaçant, qui était clairement identifié en tant que journaliste, qui avait une équipe avec lui, un caméraman, un producteur, il était placé entre les manifestants et la police, et quand la police avance pour commencer à vider, c'était une intersection des manifestants, ils se mettent face à lui. Lui s'identifie clairement. Il y a un face-à-face un petit peu qu'on ne comprend pas et qu'on voit bien à la caméra, qui dure plusieurs secondes. Et quelqu'un vient lui menotter, lui passer les menottes dans le dos. Et il ne comprend pas pourquoi. Et pendant plusieurs instants, il va rester prisonnier. Et alors, ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'à quelques pâtés de maison de là seulement, on avait une autre équipe et un autre correspondant, celui-là blanc, à qui la police a demandé la même chose. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qui également s'est identifié. Je suis journaliste, je couvre la manifestation. De toute façon, c'est assez évident, ça se voit. Et lui, il ne lui est rien arrivé. On ne lui a pas passé les menottes. Il a pu continuer à faire son travail. Donc, on a eu tout ça arrivant quelques jours seulement après la mort de George Floyd. C'est très difficile, même si Oscar Jiménez, mon collègue, lui, s'en est tenu au fait, simplement. Il n'a pas voulu interpréter la situation ni la motivation des policiers. C'est très difficile de ne pas se demander pourquoi il y a eu un certain traitement pour un journaliste noir et un traitement totalement autre pour un journaliste blanc.
Y a-t-il dans ces manifestations, à ta connaissance, des process de sécurité particuliers qui sont appliqués par les journalistes de CNN sur le terrain? Là, ce sont des manifestations qui sont violentes. On sait qu'il y a des journalistes très très aguerris au sein de CNN qui vont dans des zones de guerre, etc. Ont-ils adopté, à ta connaissance, des comportements spécifiques depuis le début du mouvement aux États-Unis?
Depuis le début du mouvement, je pense pas particulièrement. Je pense qu'ils appliquent les mêmes règles que celles qui s'appliquent en temps de manif très tendu ou en temps d'émeute. Il faut savoir que les journalistes de terrain suivent tous des cours qui les forment aux situations à risque, zones de conflit. Toutes ces règles-là sont valables en cas de manifestation ou d'émeute. À titre d'exemple, par exemple, j'ai couvert la manifestation antiraciste du 13 juin à Paris. Et j'ai reçu, alors là, ça a été de manière un peu expédiée parce que c'était presque du jour au lendemain, mais j'ai reçu par Zoom 3 heures avec un ancien de l'armée qui nous expliquait comment se déplacer sur ce genre de terrain, etc. Donc, numéro un, les journalistes sont formés. Numéro deux, il y a souvent une équipe de sécurité. Et dans ce cas-là, il y avait définitivement une équipe de sécurité avec les équipes.
Passons maintenant à la question du positionnement de CNN face à Donald Trump et son administration et la politique américaine en général. Y a-t-il des consignes particulières, des guidelines concernant le traitement de la politique américaine sur CNN ?
Non, il n'y a pas de consigne particulière. Il faut savoir qu'on est dans un face-à-face largement organisé par la Maison-Blanche. Donc, entre les médias de manière générale et Trump, il y a un face-à-face depuis le début de cette présidence, depuis même sa campagne, avant qu'il ne soit élu. Les choses n'ont fait que se tendre depuis. Le face-à-face est entre les médias et Trump, et plus particulièrement Trump à CNN, dans le pif, de même que New York Times, Washington Post. Il y a quelques titres de presse qu'il n'aime pas, nous en faisons partie. Nous, on estime que c'est parce qu'on fait notre travail et qu'on ne lui passe rien, contrairement à d'autres médias qui lui sont beaucoup plus favorables.
Cyril Vanier, CNN, j'ai prévenu Anne Corpé, qui est l'envoyée spéciale permanente de RFI à Washington, que j'allais t'interviewer. Je lui ai demandé si elle avait une question à t'adresser. On va l'écouter.
Bonjour, j'aimerais bien savoir comment on vit à CNN le fait d'être en permanence ciblé par Donald Trump et par son équipe de campagne. Est-ce que c'est une source de fierté, d'embarras? Et puis est-ce que c'est bénéfique pour l'audience ou au contraire est-ce que cette étiquette imposée par la Maison-Blanche fait fuir les téléspectateurs? D'ailleurs, est-ce qu'il y a au sein de la rédaction de CNN quelqu'un qui parfois prend la défense de Donald Trump?
Alors, une réponse déjà sur le premier point. Comment est-ce qu'on vit à CNN le fait d'être en permanence ciblé par le président ?
Alors, Anne demande fierté ou embarras. Je ressens plus de fierté que d'embarras. Il n'y a pas d'embarras dans la mesure où cette confrontation, ce n'est pas nous qui l'avons cherchée et qu'elle n'est pas gratuite. On ne cherche pas à se payer le président, il faut bien comprendre ça. On relate les faits. Et c'est un président qui ne supporte pas qu'on relate beaucoup de faits, parce que dans sa vision du monde, dans sa cosmologie, je dirais, eh bien, les choses ne sont pas telles qu'elles peuvent apparaître à des journalistes indépendants. Donc souvent, Trump est furieux contre nous comme contre d'autres. Donc dans ce contexte-là, il n'y a pas de raison d'être embarrassé. À titre personnel, je trouve que c'est pas l'idéal, mais encore une fois, c'est le climat que le président veut. Il faut comprendre que ça fait partie de sa stratégie. Ça l'arrange, pour des raisons électorales, de peindre les médias comme des ennemis. Il avait d'ailleurs dit que les médias étaient l'ennemi du peuple, ce qui est quand même dingue dans une des premières démocraties du monde. Donc voilà, pas d'embarras, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la fierté. C'est Trump qui organise ce face-à-face, donc on est dedans, et Là où je trouve que ça rend le travail des médias difficile, c'est qu'il faut veiller scrupuleusement à ne jamais rentrer dans son jeu. Il veut faire de nous des ennemis. Si nous, on se positionne en tant qu'ennemis, on a perdu parce qu'on lui a donné raison et qu'on s'est laissé manipuler. Donc, il faut en permanence veiller à ne pas se laisser manipuler. Et avec ce président, c'est difficile.
Est-ce bénéfique pour l'audience, demandait Anne Corpé, une idée ?
Oui, c'est plutôt bénéfique pour l'audience. La présidence Trump et la campagne Trump avant ça avaient été plutôt bénéfiques pour les audiences, pas seulement celles de CNN, mais les audiences des chaînes d'infos en général, Fox, CNN, MSNBC, toutes les autres. Parce que dans un moment de crise, dans un moment de tension, dans un moment où il y a énormément de questionnements, c'est normal que les gens veuillent être plus informés. Il faut bien comprendre que Trump, pendant sa présidence, a rompu les digues une à une. Il a pris toutes les règles normales d'une présidence américaine et il les a brisées, il les a foulées du pied. Et donc à partir de ce moment-là, ça donne énormément de travail aux journalistes. Parce qu'il faut toujours expliquer quelles sont les limites du pouvoir du président. Est-ce qu'on a déjà vu des choses comme ça? Est-ce que c'est normal de se comporter comme ça? Est-ce qu'il a le droit même de dire ce qu'il dit? Donc forcément, il y a une demande plus forte pour le travail des journalistes.
Est-ce qu'il y a au sein de CNN quelqu'un qui prend parfois la défense de Donald Trump ?
Je dirais que dans la mesure où une rédaction normale et le travail normal au sein d'une rédaction n'est pas d'attaquer le président, il ne devrait pas y avoir lieu de prendre sa défense. Et j'ai même souvent entendu l'ancien patron de CNN International rappeler aux troupes que nous, notre travail, c'est pas de prendre parti. C'est pas d'estimer c'est pas de s'indigner et c'est pas d'estimer que quelque chose est indigne. Notre travail, c'est pas de réagir de manière émotionnelle. On n'est pas là pour mettre nos émotions en avant. On est là pour mettre les faits en avant. Trump nous donne beaucoup de travail dans ce sens. Et donc, il y a toujours ce rappel dans la rédaction. Mais je pense que maintenant, ça fait 3 ans que la présidence est installée. Et donc, les règles éditoriales, déontologiques, elles sont plus qu'installées dans la rédaction.
L'actuel président de CNN, Jeff Zucker, a déclaré il y a quelque temps qu'aujourd'hui, quand on est pour la vérité, quand on est pro-truth, on a l'air d'être contre Donald Trump, en gros. C'est un petit peu ce que ressentent, j'imagine, les journalistes de CNN actuellement.
Oui. Mais oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette confrontation qu'organise le président. Le président va mentir. Nous, le seuil, quand même, pour dénoncer quelque chose comme un mensonge, en général, dans une présidence normale, est assez élevé. C'est pas quelque chose que les journalistes font facilement. Mais comme Trump sort, et bien c'est documenté, 10 mensonges par jour, enfin, j'ai pas compté, hein, mais on est de cet ordre-là, quand il fait un meeting de 2 heures, mais c'est parsemé de contre-vérités, de mensonges, de manipulations. Si on veut tout décrypter derrière, on va passer 3 heures d'antenne à décrypter chaque mensonge. Donc, on ressemble à quoi? Évidemment que dans ce contexte-là, les journalistes vont ressembler à des anti-pouvoirs, quels qu'ils soient. Mais encore une fois, c'est parce que le pouvoir a décidé de se mettre dans cette posture. Donc nous, il faut qu'on revienne tout simplement, c'est pas compliqué, il faut simplement revenir à la base du journalisme. Nous, on traite les faits. S'il y a des choses fausses qui sont dites, c'est à nous de les souligner, c'est à nous de le rappeler, et on doit s'en tenir aux faits. Et c'est d'ailleurs la campagne publicitaire qu'a lancée CNN à peu près au milieu du mandat de Trump, facts first, les faits d'abord.
Justement, face aux fake news, et pour être sûr et pour vérifier ces faits, il y a un système, des structures de vérification de l'info au sein de CNN pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit dite à l'antenne. Explique-nous quelles sont-elles et comment elles fonctionnent.
Mais pour ceux qui... je vais d'abord expliquer très rapidement le fonctionnement de beaucoup de médias, pour ceux que ça intéresse et qui s'y connaissent, donc beaucoup de tes auditeurs. Souvent, les médias sont abonnés à des agences de presse qui font une partie du travail de collecte de l'information. Et les rédactions récupèrent ça sous forme de dépêche et peuvent ensuite mettre ces informations à l'antenne parce qu'elles sont considérées validées et avérées. CNN a vocation à faire, je dirais, plus et je dirais même mieux, c'est-à-dire CNN a vocation à être sa propre source d'information sur autant de sujets que faire se peut. Et donc, le travail de collecte d'informations à la base, mais surtout le travail de vérification est très robuste. Donc, tu m'as vu, quand tu es rentré, faire un papier envoyé aux États-Unis sur la réouverture des écoles en France. Ce papier, il a été envoyé à Atlanta, il a été vérifié, et c'est seulement après vérification qu'il y a le feu vert pour qu'il puisse passer à l'antenne dans 1 heure. Et c'est comme ça pour tout ce qui se dit, avec une exception, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est le live. Quand un présentateur dit quelque chose en live, dans toutes les chaînes, ce qui est dit a été dit, et ça, on ne peut plus le changer.
Sur certains contenus très sensibles, j'ai entendu dire une de tes collègues, Mélissa Bell, qui est correspondante de CNN à Paris, parler de 3 niveaux de vérification, un niveau éditorial, un niveau légal et un niveau déontologique.
C'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est une équipe qui a 3 têtes qui vérifie les informations. Parce qu'une information peut être elle peut être fausse ou elle peut être vraie, mais poser un problème d'un point de vue juridique ou d'un point de vue déontologique. Je vais te donner un exemple. J'étais en Haïti il y a quelques années quand il y a eu un scandale sur l'affaire Oxfam, dont un des employés avait eu recours à des prostituées quelques années auparavant. J'étais là-bas et pour creuser cette question, pour savoir si ça avait été vrai, quelles étaient les pratiques des organisations humanitaires à l'époque, on a rencontré un proxénète. Et il était question qu'on l'interviewe. Bon, j'ai eu la rédaction de CNN, ce groupe donc qui valide les infos, et qui, en amont, m'a dit « Alors, on a des problèmes du point de vue déontologique et on a des problèmes du point de vue juridique. Donc, est-ce que c'est tout à fait nécessaire du point de vue éditorial ?» On en a conclu que ce n'était pas le cas, pour tout un tas de raisons. Voilà, mais c'était un exemple qui montre que il y a plusieurs filtres effectivement pour toute information.
Alors ces structures, elles sont lourdes, elles sont chères, et pourtant ça va vite quand même.
Il faut que ça aille vite. Donc ça, ce sont des gens qui sont disséminés dans les différents bureaux de CNN aux 4 coins du monde. Il faut que ça aille vite. Effectivement, c'est très lourd et c'est très cher. Et les nouveaux moyens de communication n'ont pas rendu la télévision beaucoup moins chère. Donc ça reste... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait des revenus publicitaires. Et il faut que le business model de toute chaîne privée, pas que CNN, fonctionne. Et il faut qu'il y ait des auditeurs et des téléspectateurs.
Malgré ces process dont on vient de parler, CNN est parfois la cible d'attaques dures en ligne, mais également ça a été le cas physiquement. Le siège de CNN à Atlanta, il y a quelques semaines, a été attaqué par un groupe de plusieurs dizaines de personnes. L'une d'entre elles a même lancé une grenade détonante dans le hall du CNN Center. À quoi expliquez-vous ces comportements? C'est l'humeur du moment? C'est l'air du temps? Qui?
Bah écoute, vraiment, je ne l'explique pas. Oui, tu as raison, c'est l'humeur du temps. C'est l'humeur du moment et l'air du temps. Je reprends tes mots, tu as raison. Ça ne peut être que ça. Ça n'a pas de sens. C'est un contresens d'attaquer CNN à ce moment-là. C'est un mouvement de colère parti de la mort de George Floyd. CNN était en force dans les rues de Minneapolis pour couvrir les émeutes. Plusieurs présentateurs et personnalités de CNN se sont positionnés assez largement en faveur du mouvement Black Lives Matter. CNN, on l'a évoqué tout à l'heure, a pris des risques pour couvrir ces manifestations. Ça n'a aucun sens d'aller attaquer CNN. Je pense que la colère ce jour-là était aveugle. Et heureusement, bon, ça m'a attristé parce que c'est un immeuble où j'ai travaillé plusieurs années. Et ce logo, ces grandes lettres rouges CNN, ne méritaient absolument pas d'être attaquées de la sorte. Bon, voilà, l'immeuble est sécurisé parce que CNN est malheureusement occasionnellement ciblé.
Il y a quelques jours, je recevais dans l'atelier des médias de RFI un universitaire, Sébastien Mort, qui a analysé les médias conservateurs américains et qui, en gros, nous dit que les médias aux États-Unis sont à la fois victimes, mais aussi responsables de la radicalisation, justement, de la polarisation politique aux États-Unis. Est-ce que pour toi aussi, Donald Trump en est un des premiers responsables?
Alors, je pense que ça va de pair. Moi, je pense que Trump est en partie le produit de Fox News, la chaîne tout info conservatrice américaine, et que Fox News est aussi, même si elle prédatait Trump, elle est aussi, dans son incarnation actuelle, le pendant de Donald Trump dans les médias. Je pense que les deux ont une relation symbiotique. Alors, il faut un tout petit peu d'histoire pour bien comprendre la question. Le sens de la mesure, de l'équité et de la justice s'est très largement dilué dans les médias américains à partir des années 80. Parce que c'est à ce moment-là qu'a été abolie la Fairness Doctrine. Donc une doctrine qui imposait à toutes les rédactions, toutes les chaînes de télé, à partir du moment où elles traitaient d'un débat d'intérêt public, qui leur imposait de traiter ça avec équité et de manière impartiale. Bon, dans les années 80, ça disparaît. Et c'est le début du paysage qu'on voit aujourd'hui. On voit le début, on voit le lancement du talk radio, donc des radios, des talk shows conservateurs à la radio, parce qu'il y avait un marché. Tout ça a gagné beaucoup d'argent. Le présentateur phare de ce mouvement, c'est Rush Limbaugh, c'est quelqu'un de très riche. Et pareil, ensuite, Fox News a eu comme patron qui? Un ancien conseiller de plusieurs présidents républicains. Donc faut-il être étonné que Fox News ait un parti pris conservateur et républicain? Je ne pense pas. À partir de ce moment-là, on a des médias qui se rendent compte qu'il y a de l'argent à gagner parce que c'est un business model qui a connu une grande réussite, qu'il y a de l'argent à gagner à hystériser le débat, à prendre parti et à dire aux gens en partie ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce modèle a fonctionné. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est bon pour les débats publics? Je ne le pense pas. Mais c'est un modèle qui fonctionne en termes d'audience, en termes de revenus publicitaires. Et c'est un modèle qui est très largement soutenu, alimenté par ce président, qui d'ailleurs n'a donné aucune interview formelle à CNN depuis le début de son mandat et qui, en revanche, appelle régulièrement, quand il le souhaite, les émissions de Fox News en prime time.
Cyril Vanier de CNN dans l'atelier des médias de RFI. Ouvrons une séquence questions courtes, réponses courtes. Y a-t-il, à ta connaissance, des qualités ou compétences spécifiques requises pour travailler pour CNN?
S'il y en a, je ne les connais pas.
Entre nous, c'est la classe quand même de travailler pour CNN.
Écoute, je suis très fier de travailler pour CNN, je peux te dire ça, oui.
Plutôt Atlanta ou Londres?
J'aime beaucoup les deux. Les États-Unis, ça fait partie de toi une fois que tu y as vécu, donc ça va forcément te manquer.
T'es-tu déjà fait avoir par une fake news?
Non, je croise les doigts.
Donc tu n'en as jamais dit à l'antenne?
Non, il faut quand même le vouloir pour aller raconter une fake news.
Si tu avais Donald Trump demain en face de toi, donne-moi une question que tu lui poserais.
Est-ce que vous croyez vraiment tout ce que vous dites?
En tant que journaliste de CNN, est-ce qu'Obama te manque?
Ça, ça ressemble à une question piège, je n'y connais pas. Écoute, alors là, c'est très difficile de faire court. Tu me pièges. Non, il me manque pas parce qu'il a pas à me manquer. C'est un président. En plus, c'est pas mon pays. Je participe pas à ces élections. Et je ne ferai pas court et c'est de ta faute pour cette réponse. En plus, Trump, du point de vue de l'exercice journalistique, est passionnant. C'est une plongée dans le système américain. Et s'il y a bien une présidence sous laquelle tu vas comprendre ce pays, c'est sous la présidence Trump.
Fin de cette séquence questions courtes, réponses courtes. Parlons des clés du succès de CNN. On l'a dit, c'est d'être en direct depuis partout et de diffuser dans le monde entier. Pour ça, il faut des moyens, des investissements énormes. Et le réseau, notamment, a beaucoup investi sur le numérique.
Écoute, CNN est un média privé, donc CNN a toujours besoin de se poser la question de l'équation financière, comment on gagne de l'argent, comment donc on a en permanence des téléspectateurs et sur quel support. Donc CNN est très agile pour prendre l'argent là où, pour couper les vivres là où l'argent est mal investi et pour aller l'investir là où il y a du potentiel. Donc CNN fait ça en permanence, et oui, ces dernières années, ça veut dire rééquilibrer souvent du personnel qui travaille en télé au profit d'effectifs en numérique.
Mais ça marche, puisque actuellement, CNN, on peut le dire, fait 200 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et ça a été même plus, là, ces dernières semaines, avec les événements et le mouvement Black Lives Matter.
Oui, et c'est pas fini. Écoute, je suis très content de voir qu'on est en train d'investir le domaine des podcasts, qui est déjà très développé aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais où il y a d'excellentes choses qui se font. Il y a plusieurs nouveaux podcasts qui ont été lancés par CNN, notamment un cette semaine sur le mouvement Black Lives Matter et toutes les questions autour.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que CNN cherche à, via des vidéos mises sur les réseaux sociaux, à toucher les jeunes. Et aux États-Unis, CNN est l'une des marques d'information les plus prisées par les 15-25 ans. J'imagine, ça aussi, ça doit être source de fierté.
Ça revient à demander comment aujourd'hui on capte l'audience et comment notamment tu captes une audience jeune. Alors si tu veux une anecdote, j'ai fait venir une étudiante il y a quelques années au QG de CNN. Okay, je l'avais eue à Paris. Elle vient au QG de CNN nous rendre visite, elle a 25 ans. Elle me dit en quittant le QG, c'était génial, je pourrais jamais dire à mes amis que je suis venue. Je lui dis quoi, mais pourquoi tu devrais être fier? Elle me dit, oh ben non, à mon âge, enfin nous, notre groupe d'âge, et je comprends qu'à 25 ans, en fait, CNN, c'était pas cool dans son groupe d'amis. C'était. Et j'ai été très surpris, mais ça montre tout le défi, effectivement, qu'il y a à capter des publics qui, eux, contrairement à moi, ont peut-être pas grandi en voyant leur père pleurer devant CNN. Et ces gens-là, il faut savoir leur parler, peut-être un langage différent, peut-être sur des supports différents. Et honnêtement, personne, je pense, n'a la formule définitive pour l'instant, mais CNN est assez agile pour adapter sa formule.
Est-ce qu'à ton niveau, toi, justement, tu es amené parfois à travailler sur ou pour le numérique? Et est-ce que tu t'es déjà essayé à des nouveaux formats sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok?
Je suis pas très fort en réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des gens qui sont des natifs et qui ont pas besoin d'apprendre. Moi, ça me parle pas énormément. Alors, à ma surprise, on m'a pas demandé en arrivant à CNN de subitement devenir beaucoup plus actif sur Twitter, sur Instagram, etc. Parce que ce ne sont pas leurs plateformes. Donc, en fait, le nerf de la guerre, c'est de proposer ton contenu sur ta plateforme. Donc, aller la proposer sur Twitter et Instagram, si ça fait des retweets et que ça fait augmenter l'image de marque du groupe, pourquoi pas? Mais il faut jamais oublier que ce ne sont pas des plateformes CNN. Et nous, notre objectif, c'est que les gens viennent nous écouter là où nous sommes, sur nos plateformes.
CNN fait d'ailleurs très attention à son image de marque, justement, en ligne et à l'antenne, évidemment. C'est très, très important, ça, pour le groupe.
Oui, c'est très important. C'est un groupe qui mise beaucoup sur les visages de l'antenne. Par exemple, avant de te parler, j'ai dû demander à la com de CNN s'ils étaient d'accord. Et donc, effectivement, à partir du moment où tu travailles pour CNN, si tu t'exprimes en public, tu parles pour CNN. Que ça soit moi à ton micro, bien normal, tout le monde l'a compris, mais là où ça devient plus flou, c'est sur Twitter. Quand tu vas dire quelque chose sur Twitter, toutes les rédactions ont ce problème-là, sur Instagram, sur toutes ces formes d'expression qui sont où la parole est plus libre et paraît moins formelle. Est-ce que tu t'exprimes au nom de CNN? Eh ben, du point de vue de CNN, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dois respecter les critères qui s'imposent aux journalistes de la marque.
Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence concernant CNN par rapport à une chaîne comme France 24, comme pas comme RT, je veux dire, mais déjà par rapport à un groupe et une chaîne comme France 24?
La taille et le fait d'être basé aux États-Unis, le fait d'être une chaîne américaine, notamment pendant l'époque que l'on vit, qui est une époque très fortement marquée par l'actualité américaine, on a un rôle particulier parce que CNN est à la Maison-Blanche en permanence, parce que CNN a une emprise sur l'actualité américaine qu'aucune autre chaîne internationale ne peut espérer avoir, Et c'est normal, on le comprend. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un rôle particulier à jouer à cette époque. Et sinon, de manière générale, CNN fait partie des quelques chaînes au monde avec encore un budget très conséquent. Donc, on a des possibilités grâce à ce budget que n'ont pas beaucoup d'autres chaînes. Parce qu'on le disait tout à l'heure, la télé, c'est très cher. Envoyer du monde se déplacer en permanence pour aller récupérer des infos qui ne vont pas forcément finir à l'antenne, prendre des risques sur des reportages, c'est très difficile. Il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Et souvent, il faut vraiment choisir ses batailles quand on a un budget limité. CNN a la possibilité d'avoir plus d'ambition.
Parce qu'également, on peut le préciser, faire du direct, ça coûte très très cher.
Oui, d'autant plus si tu veux faire du direct de très bonne qualité. Si tu veux avoir, c'est tout bête, mais si tu veux avoir un très bon son et une très bonne image, eh bien, il faut des très bons moyens de transmission. Et ça veut dire que tu ne vas pas te satisfaire des moyens de transmission nombreux et pas chers qui sont désormais à disposition des chaînes de télé. Et donc, tu vas déployer ton satellite, tu vas faire venir ton car régie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire plusieurs personnes à déployer sur le terrain. Tout ça, c'est cher.
On sait que le marché des médias internationaux est très concurrentiel. Un concurrent international de CNN est actuellement en gestation. Il devrait s'appeler NBC Sky World News, alliance du réseau américain NBC et des Britanniques de Sky News. Qu'en dis-tu ?
En tant que journaliste, je pense que ça va faire vraiment cliché et ça va faire langue de bois ce que je vais te dire. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut que se réjouir de la venue d'un concurrent et d'une nouvelle chaîne d'information internationale. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir trop d'informations dans le monde. Donc élargir le menu et l'offre, c'est bien. Et avoir de la concurrence, c'est bien. Parce que sur le plan de l'actualité internationale, on n'est pas nombreux à être dans la même ligue que CNN. On peut en citer deux ou trois autres, mais pas plus. Donc c'est bien qu'il y ait une autre chaîne qui se crée. Ils auront des difficultés, c'est pas facile, hein, parce qu'on parlait du budget, il faut avoir un gros budget. Je ne sais pas quelles sont leurs ambitions éditoriales, et surtout je ne sais pas quel est leur business model. Est-ce que c'est une chaîne qui devra gagner de l'argent ou pas ? Parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre.
NBC Sky World News qui devait être lancé cet été et dont le lancement a été repoussé à on ne sait pas quand pour l'instant, du fait de la crise du coronavirus. CNN, là, est-ce que vous avez des infos, vous, en interne, concernant d'éventuelles coupes dans les budgets, d'éventuels licenciements ? Parce qu'on sait que les ressources publicitaires sont gravement à la baisse depuis quelques mois. Qu'en est-il ?
Alors, je vais te dire deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Si j'avais des infos internes concernant des coupes au sein de CNN, des infos internes, je répète, tu comprends bien que je n'aurais pas le loisir de te les répéter. Cela étant dit, je peux quand même répondre à ta question parce que l'info interne, c'est que non. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de baisse de salaire, il n'y a pas de réduction dans les effectifs. Cette question a évidemment été posée au patron de CNN et donc sa réponse plusieurs fois et de manière répétée et appuyée a été non. Tous les effectifs ont été maintenus et la programmation doit revenir à son état normal dans les mois qui viennent.
Et donc quand est-ce que tu vas reprendre ton émission à Londres ?
Point d'interrogation sur une date précise, mais à partir de septembre, on peut espérer reprendre l'émission avec un doute sur le fait que septembre, ça va être, on est dans les deux mois qui précèdent la présidentielle américaine, donc il se peut qu'on laisse la place généreusement et gracieusement à nos confrères de CNN USA dans cette période politique très forte pour eux.
Merci beaucoup Cyril Vanier de CNN d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
À bientôt.
L'atelier des médias.
C'est la fin de cette émission enregistrée à Paris sur les Champs-Élysées dans le bureau de la chaîne américaine CNN. Si vous l'avez attrapé au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts. La semaine dernière notamment, je recevais Sébastien Mort, maître de conférences en culture et société des États-Unis, pour parler de la nébuleuse des médias conservateurs américains. Avec lui, j'ai compris en quoi les médias sont à la fois la cause et le symptôme de l'évolution politique actuelle aux États-Unis. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.